cours de philosophie du vivant par le père Philippe à Saint-Jodard, le 4 octobre 89.
Un nouveau chantier, celui de la philosophie du vivant. Alors là encore, on avait commencé l'année dernière. Alors je reprends, puisque il y a des nouveaux, pour qu'ils ne soient pas trop perdus. Je reprends rapidement. Alors, il faudrait se poser la question, à quel moment la philosophie du vivant s'est posée? D'abord, qu'est-ce que c'est que la philosophie du vivant? La philosophie du vivant fait partie de ce qu'on appelle la philosophie spéculative. Au plan génétique, dans l'ordre de la genèse de notre pensée, la pensée, la connaissance pratique, l'éthique, le facere, l'aspect politique est premier. Je crois que ça, c'est très important de nous le rappeler. C'est une des erreurs de la scolastique d'avoir considéré que la connaissance pratique était seconde, parce que elle a laïcisé une pensée théologique. Pour le théologien, le regard est premièrement sur Dieu. Pour l'homme, le regard est premièrement sur l'homme. Ça aussi, ayez-en l'évidence. Pour le théologien, pour le croyant, tout court, la première chose, je crois en Dieu, créateur du ciel et de la terre. Vous dites ça à la messe. J'espère que ça correspond à une réalité. Votre foi vous fait regarder Dieu. Et Dieu créateur. Et donc, votre foi vous fait regarder l'homme en second lieu. Et dans l'homme, l'âme et le corps ensuite. C'est l'ordre de la théologie, ça. La philosophie scolastique ayant laïcisé la pensée de saint Thomas, Suarez, regarde en premier lieu l'aspect spéculatif. On regarde Dieu en premier lieu. Et puis, on regarde ensuite l'aspect pratique. Et on dit qu'on applique les conclusions spéculatives aux pratiques. Ce qui est une grave erreur au plan philosophique. Parce que, au plan philosophique, l'homme est connu avant Dieu. Au plan philosophique. La chose que je connais, c'est quand même mes parents, ma mère, mes frères et sœurs, la famille. Et Dieu n'est pas présent immédiatement, il n'est pas visible. Si je suis dans une famille chrétienne, on me parlera vite de Dieu, on fera la prière en famille. Et dans la prière en famille, il y a des tas de distractions. Du petit frère, de la petite sœur, des parents, des oiseaux. J'ai de la peine à m'élever jusqu'à Dieu, tandis que voir ceux qui sont proches. Donc, c'est l'ordre génétique fait que la première connaissance que j'ai, c'est l'homme. Dans son travail, dans son amour d'amitié, dans sa coopération. C'est pour ça qu'il faut redresser l'ordre scolastique décadent depuis Suarez et reprendre l'ordre philosophique. Dans l'ordre philosophique, la connaissance pratique est en première. Il s'agit de découvrir ce moment très important d'une connaissance dite spéculative, c'est-à-dire d'une connaissance qui recherche la vérité pour elle-même. Et question d'intention. Dans la connaissance pratique, je ne recherche pas la connaissance pour elle-même. Je ne recherche pas La perfection de la connaissance pour elle-même, c'est l'œuvre. L'artisan ne cherche pas à connaître en premier lieu ses outils. Il les connaît en travaillant. Ça, c'est sûr. C'est pour ça qu'il les aime tant. Un artisan n'est pas du tout tenté de prendre toujours les outils les derniers. Il aime mieux ses vieux outils. Mais quelqu'un qui revient des études cherche les outils les plus perfectionnés. C'est très curieux, ça. Et c'est très significatif. Parce que on connaît d'abord par l'œuvre. Et au point de vue pratique, on connaît d'abord par le point de vue de l'amour. Et puis au point de vue politique, on connaît en coopérant. On ne peut pas s'arrêter à la connaissance pratique. On doit comprendre que la connaissance pratique ne suffit pas. L'artisan qui connaît en travaillant la matière sait, au bout d'un certain temps d'expérience, qu'il est bon de regarder le bois pour lui-même, de regarder la pierre pour elle-même et d'aller voir le lieu où on va extraire cette pierre. Le lieu où on va extraire ce bois, ou le fabriquer, la forêt. Vous voyez, on remonte à la source. Et la source, c'est connaître la matière pour elle-même. D'où, première connaissance spéculative, la connaissance de la matière pour elle-même. Et comprendre que là, il y a un dépassement. C'est très important, ça, surtout aujourd'hui, vous voyez, parce qu'on se retrouve dans des situations très analogues avec les premiers philosophes grecs. En face de la pensée dialectique de Hegel, on doit retrouver une distinction très fondamentale de la connaissance, connaissance pratique, connaissance affective, connaissance politique, une connaissance spéculative. Pour Hegel, cette distinction ne signifie rien. Et ça, c'est une très grande lacune. C'est la dialectique qui fait ça. Alors, il faudrait se demander pourquoi. Pourquoi, d'un côté, on arrive à la philosophie grecque. Pourquoi, d'un côté, on arrive à un moment où on distingue connaissance pratique, connaissance spéculative. On a commencé par la connaissance pratique, Hésiode. Hésiode, c'est le premier philosophe grec. C'est un livre de chevet, Hésiode. Faut y revenir tout le temps. Les jours, les travaux. C'est très important, ça. Puis la théogonie. Vous voyez, c'est curieux. Le pratique commence par un regard sur le travail et un regard sur les dieux. Rien n'est plus pratique que la connaissance de Dieu. C'est bien évident. C'est éminemment pratique. La contemplation, c'est éminemment pratique. C'est pas du tout du spéculatif dans le sens d'une analyse spéculative. Non, éminemment pratique. C'est très curieux de voir ça. Hésiode, c'est notre arrière-grand-père. Il dit des choses intelligentes. Il a très mauvais caractère. Comme un bon paysan qui sait ce que c'est, puis sa femme ne lui donne pas beaucoup de satisfaction. Ça, c'est sûr. Alors, un jour, de mauvaise humeur, vis-à-vis de sa femme, il dit, mais qu'est-ce que c'est que l'origine? Alors, il donne sa vision de la femme. C'est très curieux, c'est extraordinaire. Une vision de paysan. Mais vous trouveriez exactement la même chose aujourd'hui. Quand tu te maries, c'est le conseil qu'il donne, quand tu te maries, et deux bœufs vaillants, et choisis une épouse sait travailler. Parce que si tu choisis une épouse qui ne sait pas travailler, elle sera le frelon dans la ruche. Voyez, on voit tout de suite ce caractère d'Hésiode. C'est extraordinaire, ça c'est la philosophie grecque. Regardez la différence de la Genèse. Il faut mettre en parallèle de temps en temps ces choses-là pour qu'on comprenne mieux ce vieux paysan Hésiode. Un paysan qui est poète. Oui, je vous parlais de ce vacher qui est poète. On trouve un Hésiode de notre monde d'aujourd'hui. C'est important de parler à des gens de la terre ou des gens de la pierre ou des gens de la mer. Parce que c'est des artisans, ils réfléchissent. Demandez à un breton de parler sur la mer. Demandez à un méditerranéen de parler sur la mer. C'est ce dialogue. Quand on attendait l'Estérel pour aller à Notre-Dame de Lérins, alors le père Marie-Alain, agacé de voir que de fait, parce qu'il y avait un tout petit peu de Méditerranée agitée, Esther dit, ah non, aujourd'hui, non, non, on ne va pas. C'est trop dangereux. Le père Marie dit, ouais, regardez les Bretons. Devant son ministre, pas une seconde. Ah oui, allez au cimetière. Et vous verrez qu'il y a beaucoup de Bretons qui sont morts en mer. Tandis que, allez ici au cimetière, pas un seul n'est mort dans la Méditerranée. C'est ça, ces dialogues-là qui vont comprendre ce que c'est que la Méditerranée, c'est une petite mer. L'océan, c'est une grande mer. N'est-ce pas ? Alors, c'est autre chose. Il n'y a pas de mer sauvage, il n'y a pas de côte sauvage auprès de la Méditerranée. Il y en a pour l'océan. Les hommes de la terre, les hommes de la mer, les hommes de la pierre. Alors, il faut comprendre que celui qui travaille la terre, la mer, le bois, a besoin de connaître. Qu'est-ce que c'est ? D'où connaissance spéculative. C'est très beau, ça. Ce premier moment de la connaissance spéculative, où l'intelligence se sépare du point de vue pratique. Et dit que la connaissance a valeur pour elle-même. Vous connaissez le début de la métaphysique d'Aristote. Faut jamais l'oublier. Aristote montre comment est née la connaissance spéculative. Et il prend tout simplement ce petit détail. On a un plaisir de connaître. On a un plaisir de voir. Ça, c'est très grec. Voir. On voit pour voir. On connaît pour connaître. Voir pour voir, c'est le signe que la connaissance a en elle-même sa propre finalité. On voit pour voir. Quand vous voyez un gosse qui regarde, qu'est-ce que tu regardes ? Je regarde. Qu'est-ce que tu vois ? Des arbres, une forêt, c'est beau. La connaissance a sa propre finalité en elle-même. Donc, nous devons, en face de Hegel, comprendre que la grande confusion fondamentale de Hegel, c'est de n'avoir pas distingué la connaissance pratique de la connaissance spéculative. Je crois que c'est ça la chose terrible de l'ontologisme. Alors, on est en face d'une confusion, c'est un mur. Il faut arriver à distinguer ces deux grands aspects. Connaissance pratique, connaissance spéculative. Ça, c'est un très bon petit travail. Ceux qui cherchent des travaux, c'est un très bon petit travail. Parce que ça vaut la peine. Ça. Je vous dis, ça se repose aujourd'hui avec acuité. Si vous ne voyez pas ça, vous entrez dans la dialectique, et la dialectique est est infinie. Elle n'a pas de fini, de finalité. Elle peut durer tout le temps, tout le temps. C'est le pantareil intérieur. Tout coule, tout devient intérieur au niveau de l'intelligence. C'est quelque chose de très très particulier et c'est très important pour nous. Parce que Hegel a marqué toute la philosophie européenne d'une manière telle qu'après Hegel, on ne peut plus que penser dialectiquement. Pour beaucoup. Alors que distinguer la connaissance pratique de la connaissance spéculative, c'est reconnaître que ce n'est pas la connaissance dialectique qui est première et dernière, mais une connaissance qui respecte le primat de la réalité connue. Et qui reconnaît que le bien de l'intelligence, c'est la vérité. L'intelligence ne se donne pas à elle-même sa propre finalité. Dans la dialectique, l'intelligence se donne à elle-même sa propre finalité. Tandis que dès que je fais la distinction entre connaissance pratique et connaissance spéculative, je vois que l'intelligence doit respecter le réel. Et que le réel est antérieur à mon intelligence. L'artisan, le tailleur de pierre, l'agriculteur, le vigneron sait qu'il faut que la vigne existe pour la couper. C'est très gros, ça. Le tailleur de pierre sait que le morceau de pierre existe avant qu'il faut le tailler. Donc il y a quelque chose qui est avant et qui s'impose à moi. Vous voyez, Merleau-Ponty, à la fin de sa vie, parlait de l'être sauvage pour reconnaître qu'il y avait quelque chose d'autre que la dialectique. Alors il a fait la rencontre de l'être sauvage et il en est mort. C'est une œuvre posthume. L'être sauvage, l'être qui n'est pas conventionnel, l'être qui n'est pas abîmé par l'aspect artificiel, l'être qui n'est pas abîmé par la logique, l'être sauvage, brutal, philosophie de la matière. Connaître qu'est-ce que c'est que la matière. Et quand je connais ce que c'est que la matière, nouveau problème. Il y a une matière vivante. Qu'est-ce que c'est que le vivant? Voyez, la philosophie morale, éthique, qui se fonde sur l'expérience de l'amour d'amitié, nous le verrons. Nous l'avons déjà vu, mais nous le verrons. L'amour d'amitié me pose le problème. Qu'est-ce que c'est que le vivant? Parce que dans l'amour d'amitié, il y a toujours ce drame. Mon ami peut mourir avant moi. S'il meurt après, il se débrouillera. Mais s'il meurt avant, je dois me débrouiller. Et si mon ami meurt, je ne peux plus exercer vis-à-vis de lui l'amitié. Je perds sa présence. Je continue de l'aimer en souvenir. Qu'est-ce qu'il est? Où est-il? Vous voyez cette question terrible au cœur de l'amour d'amitié. S'il meurt. Alors ça explique, vous voyez, comment on veut garder l'ami à la maison, on le met en prison, pour mieux le garder, dans le frigo, psychologiquement parlant, mettre quelqu'un peur qu'ils se perdent. Oui, il y a des maris qui sont comme ça pour leurs épouses. Dernier jour de liberté, le mariage. C'est un serment de mariage. Ça. C'est dernier jour de liberté. Vous allez perdre votre liberté, vous allez être dans un frigo. Si votre époux vous aime d'une manière trop captative, et ça va jusque-là quelquefois, symboliquement parlant, si je laisse la liberté, ben, il y aura des risques. Mon épouse conduit très mal et très vite. Elle va se tuer. Je lui interdis. Je dis aux gendarmes, prenez-la et enlevez son permis. Comme ça, c'est pas moi qui le ferai. C'est vous. Ça arrive, ça. Comme ça, elle ne conduira plus. Et je serai tranquille. Tandis que sinon, je meurs d'angoisse à la pensée qu'elle peut mourir. Vous voyez l'amour captatif. Parce que quand on aime, immédiatement la mort apparaît comme ce qui va être le grand obstacle. Tant qu'on n'aime pas, on ne se pose pas la question de la mort. Est-ce que vous pensez à tous les morts de tous les jours? Non. Tandis que dès qu'un ami est mourant, dès qu'un père, une mère est mourante, vous y pensez. Et la mort est présente. Qu'est-ce que je peux faire pour éviter la mort? Je ferai tout, n'importe quoi, pour éviter la mort. Et la mort est présente à travers l'amour. Et la mort est vivante à travers l'amour, si j'ose dire. Tant qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de problème de la mort. Et le problème de la mort pose le problème du vivant. Qu'est-ce que c'est que le vivant, puisqu'il est capable de mourir? Comment se fait-il que le vivant porte en lui la capacité de mourir? Vous voyez, ça c'est très intéressant parce que ça fait comprendre toute la philosophie tragique, dramatique, qui est une philosophie du vivant. Ça fait comprendre aussi la dialectique. C'est que le vivant, je l'apporte par la mort. Et je découvre qu'il est vivant parce qu'il est capable de mourir. Donc la négation est première. Et c'est vrai que la philosophie hegelienne, c'est la philosophie de la vie de l'esprit, de la vie de l'esprit. Et c'est terrible, parce que je suis capable de réfléchir sur la vie, et je vois que la vie porte en elle-même une contradiction. Je suis vivant et je suis capable de mourir, mais c'est contradictoire ça. Un vivant devrait être au-delà de la mort. Vous voyez comment se pose la philosophie du vivant? À partir de l'amour d'amitié, ça devient une nécessité pour moi de me dire, mais qu'est-ce que c'est que le vivant? Et parmi les vivants, il y en a un qui domine, c'est l'homme. Je n'ai jamais rencontré un vivant supérieur à l'homme. J'ai rencontré beaucoup de petites fourmis que j'écrase tout le temps, dites ça aux végétariens. Ça leur donne une frousse intense. Ah, ils veulent pas tuer le vivant. Je dis, mais vous écrasez des quantités de fourmis. J'ai dit ça une fois, j'ai un végétarien qui était très très végétarien. Alors il m'a regardé, il est devenu blanc. Vous écrasez des fourmis tout le temps. Vous ne devriez pas bouger. Parce qu'alors vous dites que vous respectez la vie, mais vous écrasez. Alors ça, il m'a dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut plus être végétarien. Il faut comprendre que le vivant inférieur est pour le vivant supérieur. Il faut que vous ayez compris ça, vous êtes tranquille. Vous écrasez des fourmis, que voulez-vous? Vous n'en pouvez rien. Ces petites fourmis n'ont qu'à pas se mettre sur votre passage. Alors vous devez coinquer. Tout le temps pour que les fourmis s'écartent. Attention, je passe. Écartez-vous. C'est curieux que c'est la mort qui me pose le problème du vivant. Avec acuité. Donc je vois comment je dois me poser le problème du vivant. Historiquement, en philosophie grecque, où le problème du vivant s'est posé. C'est important de se poser ça. Pour voir le commencement. Je crois que c'est Aristote. Chez Platon, il n'y a pas de philosophie de la vie. Puisque la vie est contemplative, tout de suite. C'est l'âme. Et l'âme séparée. C'est l'âme séparée. Toute la philosophie platonicienne, c'est la philosophie de l'âme. Je ne dirais pas du vivant, mais de l'âme. Parce que pour Platon, notre union avec notre corps, elle est accidentelle. Normalement, notre âme ne devrait pas être unie au corps. Si je suis unie au corps, c'est par punition. Parce que j'ai mal vécu. J'ai oublié d'être contemplatif. Alors je suis retombé à union avec le corps. Donc vous voyez, c'est pas une philosophie du vivant. C'est une philosophie de la contemplation, Platon. Mon âme a vécu, avant d'être unie au corps, dans une liberté tout à fait particulière de contemplatif. Aristote est le premier à dire non, c'est pas vrai. Et c'est pour ça qu'il pose la philosophie du vivant. Parce que pour lui, je pars de l'expérience. Je n'ai aucune expérience de mon état de vie antérieur à mon corps. Aucune. C'est une réminiscence. Mais c'est très joli ça, vous voyez. C'est très intéressant de voir ça. Parce que c'est intéressant de voir qu'au fond, on a envie de l'évasion. Philosophie. Notre état actuel n'est pas commode à vivre. Alors, on aime mieux prendre, imaginer un état antérieur où j'étais parfaitement heureux. Vous voyez, le chrétien dira, c'est pas étonnant, mon âme a vécu en Adam. Mon âme a vécu en Adam, c'est-à-dire ma nature humaine. A vécu en Adam un état de bonheur. Et j'en ai la nostalgie. J'ai la terrible nostalgie du paradis terrestre. Et alors je retrouve ça dans les philosophies. La nostalgie de l'état antérieur, d'un état antérieur, qui pour Platon était l'âme séparée du corps. Un état contemplatif. Aristote est le premier. Alors, on donne des raisons. Pas étonnant, son père était médecin. Et la philosophie du vivant commence nécessairement par le point de vue de l'art médical. L'art médical a existé avant la philosophie du vivant. C'est sûr. Et Aristote est le premier à avoir donné une philosophie du vivant. Aujourd'hui, le problème de la philosophie du vivant se pose avec une très grande acuité en face de la science biologique. Dois-je, oui le problème, dois-je considérer que la science biologique supprime la philosophie du vivant? Il y a un affrontement constant entre la science biologique et la philosophie du vivant. La science biologique commence par l'expérimentation sur les vivants. Et la science biologique se sert du microscope électronique. Et elle progresse grâce à ça. Je dois tuer le vivant pour l'analyser. C'est vrai. Comment j'analyse le sang? Je ne peux pas l'analyser dans le sang vivant qui vit en moi. Je dois en tirer une goutte et l'analyser. Donc, je tue cette goutte. Elle n'est plus vivante. J'analyse toujours un non-vivant. cela que le philosophe pose comme question au biologiste, au savant biologiste. Vous ne connaissez pas la vie. Parce que vous tuez le vivant. Alors que le philosophe voudrait étudier le vivant comme vivant. Mais la revendication du philosophe et la question du philosophe, qui est une revendication aujourd'hui par rapport à la science biologique, et qui était simplement une question avant que la biologie existe. Parce que la science biologique, elle est récente. C'est les curés qui l'ont inventée. Oui, parce que c'est les premiers qui ont fait l'anatomie du corps, du cadavre. Et ça a été une révolte, il ne faut pas l'oublier. A-t-on le droit d'analyser un cadavre humain? Ça s'est posé comme question à l'Église. Est-ce que c'est respectueux pour le corps humain d'analyser? Est-ce que vous avez le droit de mettre dans votre testament, je livre mon corps à la science? Est-ce que vous avez le droit de faire ça? Ou est-ce que mon corps, mon cadavre, doit reposer gentiment dans la terre, être mangé par les tivers? C'est beaucoup plus honorable que d'être livré à la science. C'est, tous ces problèmes-là se sont posés. L'anatomie, la science de l'anatomie, analyser le cadavre. À Fribourg, on était en présence d'une université qui se voulait catholique. Celui qui a construit le lieu de l'anatomie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis un grand Christ au pied de la table de l'anatomie. On se rappelle que le cadavre humain n'est pas comme un cadavre de chien. Il est lié dans une vision chrétienne au cadavre du Christ. Et la première anatomie, c'est le coup de lance sur le cœur du Christ. Il était déjà mort. C'est très mystérieux tout ça. Il faut essayer de comprendre, hein, ce que ça représente d'avoir livré le cadavre humain à la recherche scientifique. Il y a eu un moment où ça s'est fait. En Italie. Ça a commencé en Italie. C'est très intéressant de regarder l'histoire de l'anatomie. Et ça s'est fait par un prêtre savant qui recherchait. Et c'est vrai, s'il n'y avait pas eu d'anatomie, ben, il n'y aurait pas de science biologique. Étudier le corps de l'homme dans toutes ses parties, sa complexité, cathédrale de molécules. Quand vous voyez quelqu'un qui s'avance devant vous, quelle belle cathédrale de molécules, avec des vitraux étonnants, son regard. Vous voyez, quand on commence le point de vue de la philosophie du vivant, il faut qu'on ait tout ça, comprendre tout ça. Et la science biologique s'est développée. Elle s'est développée énormément dans ce siècle. C'est la science de ce siècle. Les progrès intenses qui se sont faits en chirurgie et invraisemblables. L'opération du cœur. Les grèves. Science du XXe siècle. On a sauvé des vies humaines par là, sans me poigner. Et si on n'avait pas fait toute cette analyse, on ne pourrait pas opérer. On opère parce qu'on connaît les liens qui existent entre les différents organes. On sait comment enlever un organe et le vivant continue. vrai, c'est assez extraordinaire, le progrès de la science du côté chirurgical. La connaissance qu'on a de ce que représente cette cathédrale de molécules. Cette connaissance qu'on a du sang. Le progrès intense qu'on a fait de ce côté-là. Et du côté du cerveau. Donc, est-ce que le philosophe, en face de tout ça, doit dire « Je livre le vivant à la biologie. » On a livré le cadavre. Très bien. Est-ce qu'on doit livrer maintenant le vivant? Et le problème se pose avec une acuité particulière vis-à-vis de la génétique, vis-à-vis de l'embryon. La connaissance qu'on a de l'embryon aujourd'hui, qu'on n'avait pas du tout au début du siècle. Mais est-ce que je peux manipuler l'embryon comme je veux? Comme je veux, comme le savant, comme la biologie le désire. Est-ce que j'ai le droit de me servir de tous ces petits embryons après les avortements pour progresser dans la science? La science, donc le progrès de la science, va se fonder sur un meurtre. Et il faut se poser toutes ces questions. Hein. Parce que c'est tout cela, dans ce contexte-là, qu'il faut essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que la philosophie du vivant. Est-ce qu'elle a encore un droit d'exister? Ou est-ce que, vieillerie, un vieux meuble, très intéressant, Péripsuchès d'Aristote, il faut l'avoir lu dans sa vie. Les parties des animaux, il faut les avoir lues dans sa vie. C'est extraordinairement intéressant. Alors, est-ce que c'est un musée? Musée, 4e siècle avant Jésus-Christ, 5e siècle avant Jésus-Christ, très intéressant. Est-ce que c'est un musée? Donc, un peu un mythe? Ou est-ce que c'est encore quelque chose qui a une certaine valeur? Il faudrait se poser la question de la légitimité d'une philosophie du vivant. Je pars d'une expérience, enfin, toujours philosophiquement parlant. Hein. C'était à Poissy, le lieu du baptême de Saint-Louis. J'avais oublié ça, Poissy. Les colloques de Poissy aussi. Intéressant, point de vue protestant et catholique. C'est au foyer de charité. Vous se réunissez tous les mois, trentaine d'hommes de science, polytechniciens, savants, puis des hommes d'entreprise. On avait invité un biologiste. Que je connaissais très peu, qui était le grand ami de Paul VI et qui avait été invité au concile pour être le savant laïque, un biologiste. Donc, c'est pas n'importe qui. Invité à nous exposer en tant que biologiste. Qu'est-ce que c'est que la vie pour lui? La politique, il avait intitulé ça la politique de la vie. Il avait fait un cours, un topo, pendant 3 heures. Et on l'avait tous écouté, de façon étonnante. Parce que c'était très intéressant. La politique de la vie. Puis après, c'était comme ça, c'était la règle du jeu. Après, on m'a dit, maintenant, si vous voulez bien, Père Philippe, exposer au plan philosophique, qu'est-ce que c'est que pour vous, la philosophie du vivant. C'était pas commode. Hein. Après, cette séduction remarquable, puis ce biologiste est très séduisant. C'est celui qui lancer l'Institut de la vie d'une façon très consciente en disant les progrès biologiques, il y a 20 ans de ça, les progrès de la biologie sont tels que l'homme arrivera à décider de la survie de l'espèce humaine. Ça lui sera remis entre ses mains. Il y a 20 ans, il avait très bien compris ça. Il ne faut pas que le biologiste seul soit capable de décider. Il faut que l'homme, qui est plus que le biologiste, puisse décider. C'est un problème humain. Et c'est pour ça qu'il avait lancé l'Institut de la vie. Il l'a exposé après. Il l'a dit après, ça m'a beaucoup intéressé. Et c'est pour ça qu'il faut que les plus grands savants du monde puissent se réunir de temps en temps entre eux. Mathématiciens, physiciens, astronomes, biologistes, psychologues, et dans son désir, philosophes et théologiens, ce qui ne s'est jamais fait. C'est là que le monde de la science est très clos. Le monde de la philosophie aussi, hélas, et le monde de la théologie aussi, hélas. Là, ça fait trois mondes. Et c'est très curieux que c'est autour de la vie que ça se pose. C'est normal, d'une certaine manière. L'affrontement se fait là. Vous voyez, beaucoup plus qu'au niveau des astres. Beaucoup plus qu'au niveau physique. Il y a un affrontement aujourd'hui. Mais très très fort. La biologie arrive à des connaissances telles qu'elle peut décider du sort de l'humanité. Alors, est-ce qu'elle a le droit de décider du sort de l'humanité? Comme le Fiat de Marie, hein, c'est curieux, a décidé du sort de l'humanité. Mais c'était avec Dieu. Là, c'est plus avec Dieu. C'est savant entre eux. Je connais cet Institut de la vie, hein, par son fondateur. Il y a un QG. 15 savants. Quand ces 15 savants se réunissent, ils considèrent qu'ils sont la science de l'humanité. 8 prix Nobel, je crois. Et qu'ils n'ont pas besoin d'ajouter d'autres. Il y a un Chinois, un Soviète, numéro 1. Et puis tous. Tous les pays. Et ils considèrent qu'ils sont la science. Vous voyez, d'où est née, il ne faut pas, pas s'étonner, la bioéthique. Mais la bioéthique est née en dehors de l'Institut de la vie. L'Institut de la vie n'a pas été assez fort pour dire, eh bien, c'est nous qui allons régler ces problèmes. Non. Les biologistes se sont rencontrés entre eux en invitant des philosophes et des théologiens. Pour établir la bioéthique. Parce que ils ont été en présence de problèmes. Ils ont dit, non, on n'a pas le droit d'avoir comme critère uniquement la science. Il faudrait avoir comme critère l'éthique, une anthropologie. Hélas, la bioéthique, au point de vue éthique, c'est pas très fameux. Ça va pas très loin. Ça reste lié au progrès de la science. Il ne faut pas oublier que certains savants disent ouvertement que le progrès de l'éthique dépend du progrès scientifique de la biologie. Et que c'est la biologie qui doit régler. Vous voyez, on est au cœur de problèmes très importants ici. Alors, quand on m'a demandé ça, j'ai tout de suite dit, et je reviendrai là-dessus la fois prochaine, est-ce que le philosophe doit se servir du microscope électronique pour établir sa philosophie ?